j'utilise le champ, j'utilise les objets, j'utilise les post-it, le dessin, la vidéo.
L'art contemporain, c'est cette hyper ou ultra sensibilité à son époque.
Patrick, je t'en prie, c'est quoi ce truc là?
C'est un sculpteur grec qui l'a fait. Takis Nahadin Show, j'ai vu quoi. En Californie, c'est de la folie, tout le monde se l'arrache.
Et ça sert à quoi?
Ça sert à quoi? C'est de l'art, il est con celui-là. Ça sert à rien, tu mets ça chez toi et puis c'est tout.
Et donc qui est en relation très forte avec l'actualité, avec le monde dans lequel on vit.
En lien avec le design, en lien avec les industries, en lien avec le social, avec l'économie.
Il y a 40 ans, on aurait fait une œuvre d'art avec un sac de couchage, je pense que personne n'aurait compris cette œuvre-là.
Tu vas nous parler d'art contemporain dans les années 80, plutôt sur l'agglo nantaise ?
Je vais étendre un peu au contexte aussi français et mondial.
Je t'en prie.
Donc un petit retour des années 80 dans le monde. Donc, on est dans les décennies de guerre froide, c'est la guerre Iran-Irak qui bat son plein en 80-88. Et la France construit des centrales nucléaires un peu partout. La même année, il y a la catastrophe de Tchernobyl. Et donc, un des faits marquants de ces années-là, ce sera la chute du mur de Berlin, qui marque la fin de la guerre froide.
Un petit peu après, oui, voilà. Complètement.
Et donc, pendant ces années-là, donc, y a l'épidémie du sida qui se répand, et parallèlement, je fais un peu des grands écarts, mais il y a aussi le développement donc, du street art et de la culture hip-hop.
Et en France, il se passe quoi, Pauline ?
Et donc, en France, dans les années 80... Il y a la création des Restos du Cœur, cohabitation droite-gauche avec la Ve République, dès 86, François Mitterrand et Jacques Chirac. Et donc, il y a également un développement des transports et de l'informatique. Donc, le Minitel commercialisé en 80 et le TGV en 80. Donc, c'est vraiment une nouvelle ère, nouvelle construction. Nouvelle découverte.
Et puis les tramways arrivent dans les villes, hein, dans les années 80, 85 d'ailleurs pour Nantes.
Également, c'est ça. J'ai en parlé après d'ailleurs. Et donc Jacques Lang est ministre de la Culture de 81 à 86. Et donc il sera jusqu'en 93 également. Donc il va y avoir d'importantes transformations dans le secteur culturel. Donc une modernisation et une ouverture à la société contemporaine. On a de grands travaux qui sont réalisés à Paris pour la culture, le Grand Louvre, l'Arche de la Défense, l'Opéra Bastille, la Bibliothèque Nationale de France.
Et tout ça date de cette époque-là, effectivement.
Ouais. Ça, sous l'impulsion justement du ministre de la Culture et de toutes les grandes réformes décentralisation. Et donc, en 86, on a la Cité des Sciences qui va être construite, le Musée d'Orsay qui va ouvrir. En 87, l'Institut du Monde Arabe également qui va ouvrir. Et la pyramide du Louvre.
Qui a fait beaucoup parler d'elle.
Qui sera inaugurée en 89 pour situer à peu près pour les grands monuments. Et donc, dans le secteur des arts plastiques, on a le Centre National des Arts Plastiques et les 22 FRAC Fonds Régionaux d'Art Contemporain qui sont créés dans ces années-là. Le Musée national d'art moderne va acquérir de nombreuses œuvres et relancer la commande publique dans l'art contemporain et aussi dans les décors vitraux, mobiliers. Donc des artistes comme Pierre Soulages, Daniel Buren, André Putman vont créer pas mal de choses. Et donc on a la création de Beaux-Arts Magazine en 83 pour ce qui est de l'art contemporain.
Et puis de nouvelles manifestations culturelles également qui voient le jour à cette époque. Hein.
Voilà, la fête de la musique en 82, les journées du patrimoine 2 ans après, la fête du cinéma ou la fureur de lire. Donc on a une profusion de festivals.
À Nantes, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que là aussi ça bouge, dans le bon sens ?
Ouais, donc en fait à Nantes, c'est Michel Chauty qui est maire à ce moment-là, en 86. En 84, on a l'inauguration du stade de la Beaujoire et 85, donc le tramway qui apparaissent. Nantes commence à pas mal changer. Et en 89, Jean-Marc Ayrault sera maire socialiste à Nantes. Et donc, la direction artistique, il nomme Jean Blaise, en fait, qui sera à l'origine bien plus tard d'Estuaire et du lieu unique. Et donc, il va développer une nouvelle politique culturelle de la ville autour vraiment porté sur la culture.
Pour, c'est-à-dire que Jean-Marc Ayrault joue vraiment pendant ses mandats la carte de la culture, hein, de oui. façon très très affirmée, hein, bien sûr.
Ça, pour donner un peu le, pour en faire une spécificité par rapport aux autres villes. Et donc Josic, Jean-Louis Josic d'Étrianne justement, sera conseiller municipal dès 89 et va aussi faire beaucoup pour à ce niveau-là. Et donc dans les arts visuels, dans les années 90, on a notamment la grande rénovation en fait du musée des Beaux-Arts de Nantes. Mmh. Donc en 82, le fonds régional d'acquisition pour les musées qui s'appelle le FRAM, subventionné par l'État et la région, va permettre au musée de se doter d'importantes œuvres et de combler certaines lacunes. Donc on a par exemple en art contemporain des œuvres d'Annette Messager, Christian Boltanski, Gilbert et Georges, Bill Viola pour l'art vidéo, qui vont être acquises par le musée. Et donc le conservateur de l'époque, c'est Henri-Claude Cousseau, qui est conservateur de 85 à 94, qui va contribuer à mettre l'art contemporain au sein du musée. Donc on a des mouvements comme l'Arte Povera, le Nouveau Réalisme ou Support Surface qui vont être mis à l'honneur, ainsi que et donc des artistes qui participent aux réflexions sur la pratique picturale, donc comme Martin Barré, François Morlaix, on connaît bien, et Gérard Richter. Et donc il y a également des œuvres de plus jeunes artistes qui vont être acquises, comme Fabrice Hibert, Rosemarie Trouquel ou Jean-Luc Moulin. Et donc, une institution comme l'Artothèque Le Ring va être ouverte en 86, l'Artothèque de Nantes, et la Zoogalerie, qui est encore active aujourd'hui, en 89.
Le spectacle vivant n'est pas oublié dans ces velléités culturelles ?
Bah oui, parce pas spécialement en 86, mais en tout cas, près des années 90, 89, il y a la Compagnie Royale de Luxe qui va être accueillie à Nantes. Une année après, le Festival des Allumés qui va de 90 à 95 qui aura lieu. Donc dans plusieurs lieux et plusieurs villes finalement, mais écrit à Nantes. Et la Cité des Congrès construite en 92. Mmh. Donc après, on a la Folle Journée 95 et le lieu unique qui commence à se mettre en place. Donc c'est vraiment des années où la ville change et voilà, la culture commence à apparaître un peu de partout.
Ouais. Le LU, ça ouvre 99 ou 2000, hein, vraiment.
Ouais, voilà. Mais disons qu'en fait, c'est la friche qui a été rachetée par la ville, qui a été sauvée par la ville dans 95. Et sinon, elle aurait été démolie.
Voilà, et c'est Patrick Bouchain, l'architecte, qui va lui donner son aspect actuel. On continue donc ce retour vers 1986 et les années qui ont suivi avec Pauline Venet pour cette chronique MP Vide de l'art contemporain.
Et oui, donc les années 80 vont être marquées par un mélange des genres. Donc même au niveau artistique, on verra toutes sortes de styles artistiques qui vont un petit peu découler. Et donc c'est un peu l'année de l'exubérance, les années de la profusion sur consommation et l'essor des nouvelles technologies. Et donc autour des arts plastiques, on a notamment le développement de la vidéo. Avec donc l'art vidéo en fait qui apparaît en France et qui sera suivi par des festivals, création de festivals d'art vidéo. Dès 86 à Clermont, Clermont-Ferrand, il y a Vidéoforme qui se met en place, et en 87 Instant Vidéo à Marseille. Ce sont des festivals encore actifs aujourd'hui. Mmh. Donc voilà.
Et puis des grands artistes qui viennent du territoire nantais là.
Ouais. Bah il y a Patrick Saurin qui. Pierrick Saurin qui est diplômé en 88 et donc qui travaille la vidéo et met en scène, incarne des personnages de fiction avec toute son autodérision, un sens du gag et de la mise en scène. Donc, il interroge l'humain et le travail de l'artiste.
C'est quelqu'un qui a un rayonnement international, Pierrick Saurin. C'est un artiste très important dans l'art contemporain.
Oui.
Alors, il y a la culture dite pop également qui peut être une inspiration pour un certain nombre d'artistes, Pauline.
Oui, par exemple, le duo d'artistes Pierre et Gilles va aborder des thèmes donc de la culture pop, gay, porno ou la religion à travers en fait la photographie et la retouche d'image. Et donc, ils seront vraiment, on va dire, vraiment l'image des années 80 quand on voit les œuvres de Pierre et Gilles, et également Bertrand Lavier, donc, qui va plutôt créer des œuvres sculpturales, qui reprennent l'imaginaire de la culture pop américaine. Notamment en 84, il va créer l'œuvre Walt Disney Production, qui est une sorte de sculpture jaune un peu molle, qui paraît molle.
Jeff Koons également prend part à ce concert, j'allais dire.
Oui, Jeff Koons avec Inflatable Rabbit, un énorme lapin gonflable en inox, et puis Balloon Dogs, qui est aujourd'hui ses œuvres assez célèbres. Il y a eu une expo en 2014, une rétrospective d'ailleurs sur cet artiste.
Qu'est-ce qui se passe outre-Atlantique dans ces années 80-86, qui est notre point de repère pour cette émission?
Bien, dans les années 80, en Amérique, il y a deux étoiles filantes du néo-expressionnisme qui vont apparaître. Donc Jean-Michel Basquiat, un artiste peintre américain d'origine haïtienne et portoricaine.
Qui a une vue fulgurante, qui est mort à 27 ans. Hein, voilà,
il est mort très jeune.
Ces tableaux, maintenant, s'arrachent à des dizaines de millions de dollars.
Oui, et puis il est décliné sur tous les supports commerciaux. Les sacs, etc. Et donc, en fait, il devient très tôt peintre d'avant-garde populaire et pionnier de la mouvance underground. Il a un trait très énergique, un style naïf et des gestes assez vifs et parfois violents. Et il est influencé, entre autres, par un livre d'anatomie qu'il a reçu quand il était enfant. Donc, en effet, ça se retrouve dans sa peinture, côté un peu décortiqué, des personnages qu'il peint. Sinon, sa culture portoricaine et le graffiti. Très tôt, il fait des graphes avec ses amis en ville, et en fait en centre-ville. Et donc, il signe à chaque fois SAMO, donc c'est Same Old Shit. Donc, c'est le groupe de jeunes qui sont sous ce nom-là. Et un peu plus tard, il va découvrir et rencontrer Andy Warhol en début 80. Et donc, il va exposer avec lui, notamment lors d'une manifestation New York New Wave, avec Keith Haring et également Robert Mapplethorpe.
Keith Haring, qui est aussi un artiste très important de l'époque.
Oui, tout à fait. Je vais en parler juste après. Mais Robert Mapplethorpe également, qui est un photographe de l'époque, qui était avec Patti Smith. Et donc, pour revenir sur Jean-Michel Basquiat, voilà. Il collabore avec Andy Warhol pendant pas mal d'années, pendant au moins 3 ans. Et donc en 86, quand il est au plus haut de sa carrière, il va pour la première fois en Afrique et il va exposer là-bas, dans une expo au Centre culturel français d'Abidjan. Donc il commence à découvrir aussi cette culture et ses racines. Et lorsque Andy Warhol meurt en 87, Basquiat est effondré et il va mourir peu de temps après, en fait, en 88 à 27 ans.
Mort d'une overdose,
ouais,
c'est ça.
Comme pas mal de jeunes à l'époque.
Il y a beaucoup qui meurent à 27 ans, qui viennent des gloires. On pense à Hendrix, on pense, je sais pas, qui est mort célèbre à 27 ans. Janis Joplin, tout ça, voilà. Amy Winehouse aussi.
Ouais, plus récemment. Et donc, Keith Haring, qui donc, était le contemporain de Basquiat, est un artiste donc, américain, dessinateur, peintre, sculpteur, qui vient aussi de l'univers du graffiti. Et donc, c'est une figure majeure du néo-expressionnisme, en gros, figuration libre. Inspiré par le graffiti, donc je disais, il va en faire très rapidement, faire ses petits dessins dans le métro new-yorkais dans les années 80. Et peu de temps après, en fait, un peu comme Basquiat, il va devenir connu assez rapidement.
Ça ressemble un peu à ce personnage, à des pictogrammes un peu, il y a un côté comme ça, très stylisé.
Oui, avec des traits, principalement, ouais, de plein de couleurs. Et donc, il va exposer fin 84 à Paris, au Musée d'Art Moderne, pour une grande expo qui s'appelle Figuration Libre 5/5 France-USA, avec Robert Combat, qui est en fait un artiste français qui est vraiment de la même veine aussi de la figuration et aussi du graphe comme ça, et avec Hervé Di Rosa. Donc, ils vont faire ensemble des fresques. En 86, voilà, la fameuse année 86, Keith Haring va peindre sur le mur de Berlin. Et la même année, il va ouvrir en fait son pop shop, où il va vendre en fait des produits dérivés, illustrés par lui-même. Donc c'est un concept qui va être repris après au final avec la commercialisation de tous les produits d'art. Mais donc à l'époque, c'était assez controversé comme pratique et ça a été quand même appuyé évidemment par Andy Warhol qui travaillait déjà dans ce sens-là avec son art reproductible. Mmh.
En 1980, on est dans les années SIDA, il y a pas mal de gens qui meurent et ça va être le cas d'ailleurs de Keith Haring qui va succomber à cette maladie.
Oui, il meurt en 88, mais il apprend qu'il a le SIDA en 88 et donc va s'engager en fait, mettre son art au service de la lutte contre le SIDA. Notamment, il va faire des peintures murales dans des hôpitaux ou même au niveau des motifs qu'il va utiliser pour faire un peu de la prévention également. Et donc il va hélas mourir donc, en 90, à 31 ans.
Très jeune là également. Oui. Pour finir, quelques noms d'artistes très actifs dans ces années 80, Pauline.
En fait, j'ai relevé un peu quelques artistes qui avaient également des œuvres dans les années 80-86. Donc on a Christian Boltanski qui va créer L'Ange d'Alliance et Théâtre d'Ombre en 86. Donc sont des œuvres en clair-obscur dans lesquelles plane le souvenir de l'Holocauste. C'est un thème qu'il va développer durant tout son art et encore aujourd'hui. Voilà, c'est lié à son histoire personnelle. Et donc, je sais que le Musée des Beaux-Arts de Nantes a acquis quelques-unes de ses œuvres. Et donc, il y a pas mal aussi d'œuvres dans l'espace public. Donc, on a le duo Christo et Jeanne-Claude.
Alors, Christo qui avait emballé le Pont Neuf en 85.
Voilà, justement.
Je suis témoin d'ailleurs de cet emballage.
Ah oui, ça devait être assez impressionnant. Mmh. Oui, c'est en fait la technique, c'est envelopper de polyester des montagnes, des bouts de montagnes, des monuments assez connus.
Des atolls, il a fait ça. Voilà. C'est du land art. Hein.
Voilà. C'est du land art, ouais, tout à fait. Mmh. Et donc ils sont assez connus pour ça. Ils emballent la géographie et l'histoire. Mmh. Mmh.
Pour Neuf, c'était en 85. J'aurais cru plus tôt. Buren, évidemment, tu le citais tout à l'heure. Voilà. Les colonnes Buren. Nous, on est à les anneaux de Buren ici.
Oui, c'est ça. En écrivant cette chronique, je me suis rendu compte finalement, on avait donné petit nom à ces œuvres. Les anneaux de Buren, à la base, s'appellent les Deux Plateaux. Et donc, c'est dans la cour du Palais Royal. Et ça a été en fait créé en 85-86.
C'est pas passé comme une lettre à la poste, hein, les colonnes
Buren. Ça a été assez
Buren,
récrié,
hein.
Oui. Ah.
Patrick, Bernard, vous vous souvenez de cette époque-là?
Oui, complètement. Ah, je m'en souviens encore.
Ah, l'art contemporain n'était pas forcément très, très, très bienvenu. Et voilà, on a l'impression qu'il y a une acceptation plus grande de l'art de notre temps, là.
Hein. Oui, ça peut verser un petit peu, quoi. Donc,
bien sûr.
Voilà.
Quelques noms encore pour terminer la chronique, Pauline.
Oui, on a dans les mêmes années Georges Rousse qui fait ses peintures en trompe-l'œil in situ, dans des espaces souvent un peu laissés en friche. Et en fait. Il va, avec sa peinture, il redimensionne un peu l'espace et il sort la peinture des musées et du cadre. Voilà. Puis après, bon, on en a tellement d'autres. Jean-Michel Autoniel, Gilbert et Georges, voilà, Annette Messager,
un grand nom là également.
Et une petite œuvre rigolote, c'est Jana Sterbach qui crée en 87 Vanitas, une robe en fait en viande. Vanitas, robe de chair pour albinos anorexiques.
Ça, c'est bien pour Paris Hilton, ça.
Oui.
Ah, je crois, c'est ça. Et puis la nouvelle sculpture anglaise hein, avec Tony Gragg ou alors celui qui a proposé le vagin de la reine
Anish Kapoor,
dans le parc de Versailles.
Dans ces années-là, on a Anish Kapoor également, Damien Hirst. Voilà.
Donc une décennie, ces années 80, quand même très, très, très prolixe, très fertile en création, en créateur, mais disparu pour certains bien, bien, bien de bonne heure.
Oui, et donc c'est vrai que les années 80 sont un peu remis au goût du jour en ce moment, et notamment à Pompidou, il y a eu il y a deux mois une exposition qui s'appelle nommée L'insoutenable légèreté, avec 20 photographes des années 80 qui viennent tous d'un univers différent, Jean-Paul Goude, Martine Parr, Pierre et Gilles, tout ça. Donc voilà, on voit vraiment un peu, ils sont un peu remis au goût du jour, alors que ça pouvait être un peu récrié un peu l'art des années 80.
Et oui, mais tu sais, la nostalgie est un marché aussi.
Ah, oui.
On ne s'étendra pas là-dessus. On retrouvera de toute façon sur le site de MP Vite des références à ces grands événements, peut-être à ces artistes que tu as mentionnés ici, Pauline. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de ce retour en 1986. Ça nous rappelait forcément des choses.
Les post-it, le dessin, la vidéo...
C'était la chronique MP Vite,
l'art contemporain.
À retrouver sur le www.jetfm.asso.fr.
Cette hyper ou ultra sensibilité à son époque.
C'est de l'art, il est con celui-là. Ça sert à rien, tu mets ça chez toi et puis c'est tout.